Top, c'est parti.
Nous allons parler de l'information.
MTV. Les journalistes m'intéressent.
You are fake news.
Deux mois de gilets jaunes et une foule de questions sur le pouvoir d'achat, l'urbanisation, les services publics, les institutions, sur les médias aussi. Sujet central dans la crise qui dit à la fois l'incompréhension de certains gilets jaunes face à la couverture du mouvement et comme beaucoup de Français, leur méfiance vis-à-vis des journalistes. L'Instant M a fait le choix de ne pas réagir à chaud, de prendre le temps d'observer et d'écouter pour commencer à discuter. L'émission est courte, vous la connaissez bien, on ne peut pas y faire le tour des dossiers, mais commençons à mettre les sujets les uns après les autres sur la table et à s'interroger. Premier fil que nous allons tirer ce matin, celui des images de télé. Quelle différence y a-t-il entre un duplex de chaîne info et un reportage? Un live amateur sur les réseaux sociaux dit-il plus et mieux qu'un sujet de JT? Le direct garantit-il l'honnêteté des images? Et plus simplement, pourquoi les gens ne se reconnaissent-ils pas dans le petit écran?
L'Instant M. Sonia De Villers sur France Inter.
Mes invités sont Jean-Paul Lepers et Paul Morera, longue carrière de grand reporter, débuté en radio d'ailleurs, pour l'un et pour l'autre, poursuivi à la télévision, un temps assez long sur Canal+, et puis vous avez tourné des images et des films l'un comme l'autre en France et partout dans le monde. Bonjour à tous les deux.
Bonjour, bonjour.
Bonjour. Alors, Sonia. Les présentations, parce que c'est important de savoir qui parle et de quoi. Paul Morera, fondateur, cofondateur de Première Ligne, agence de presse et maison de production, notamment de Cache Investigation, mais aussi de beaucoup de reportages et de documentaires que vous mettez en ligne, sans jeu de mots, voilà, sur YouTube. Hein, Première Ligne lance sa chaîne YouTube. On peut y voir, alors, aussi, hein, indépendamment des documentaires et des films tournés par vos équipes, des vidéos, acte après acte, des samedis de manif. Et vous les présentez de la manière suivante, ni chaîne info, ni réseaux sociaux, on va y venir. Jean-Paul Lepers qui est à vos côtés, vous venez de lâcher cette saison les rênes de Vox Pop, l'excellent magazine européen d'Arte, qui vous a conduit donc à peu près dans tous les pays de l'Union, où vous avez tourné, interrogé, interviewé, et puis vous avez fondé il y a 10 ans la Télé Libre, une web TV qui a...
12 ans
ouais. Une web TV qui a pour vocation de former des reporters citoyens. Alors entrons de plein pied dans le sujet. Première ligne sur YouTube, je vous l'ai dit, ni chaîne info, ni réseaux sociaux pour vous raconter les gilets jaunes.
On sait qu'il y a des gens qui ont tenu des propos antisémites, des propos palestiniens, j'ai un survêtement avec le drapeau de la Palestine. Mais on peut pas laisser des personnes aujourd'hui tenir des propos anti-juifs, c'est pas possible, c'est pas à l'image des gilets jaunes, c'est pas notre combat. C'est pas le combat des gilets jaunes, c'est pas notre combat.
Les juifs sont des criminels, rentrez-vous, tout le monde a sa place. Le seul clivage, c'est les riches et les pauvres.
On n'est pas antisémites, on est judéophobes, ils veulent nous niquer.
Cassez-vous.
Voilà, vous n'êtes pas le seul Paul Morera, puis en première ligne à tourner, il y a toutes vos équipes, ça, ces images-là, ce sont les vôtres, ça s'est déroulé samedi, acte 9, c'est ouais. Ça, acte 9. Je précise que les petits scratchs que vous avez entendus sont le signe de notre montage, mais que vous-même, vous proposez des séquences longues, des séquences sans commentaires, mais des séquences montées, et vous ne cachez pas vos coupes, Paul Morera.
Absolument, enfin, je pense que ça a été principalement traité de deux manières, ce mouvement. C'est-à-dire soit le commentaire des éditorialistes et des gens qui ne vont pas sur le terrain, soit le tout info des chaînes comme BFM, soit encore une troisième manière, les lives Facebook des propres gilets jaunes. Et je me suis dit, au fond, est-ce qu'on ne devrait pas porter un regard témoin en essayant de saisir la complexité de ce mouvement, en ne se suffisant pas d'une parole? Moi, je déteste les longues interviews où finalement on est obligé de prendre pour argent comptant ce que les gens vous disent. Je préfère, j'essaye autant que possible de capter des moments de vérité. Là, c'était un moment d'affrontement absolument incroyable, puisqu'il y avait 3-4 dieudonistes antisémites qui ont été expulsés de la manifestation avec des échanges d'arguments assez longs. Bon, j'ai évidemment raccourci pour en tirer la synthèse. Et je me suis dit, là, il y a un moment de vérité qui se passe. C'est-à-dire qu'on en a beaucoup entendu parler, il y avait une présence de l'extrême droite, etc. Et là, on voit concrètement, sans qu'évidemment ce soit provoqué par rien, la réaction d'une partie, parce que tout est parcellaire. C'est un mouvement extrêmement complexe qu'on ne peut pas définir d'un seul mot. Et donc, c'est ça la tentative, qui pour moi est une tentative journalistique, c'est de saisir le conflit à l'œuvre dans ce mouvement qui va révéler une vérité. La vérité étant qu'il se cherche, évidemment.
Alors, les journalistes sont mis en concurrence par des images amateurs extrêmement nombreuses, mais également par des images de journalistes. Je vais vous parler de Rémi Buzyn, qui a fait beaucoup causer. Il travaille pour Brut, un média social à voir sur les réseaux sociaux. Ça n'est pas un amateur, hein. C'est son travail. Il est rémunéré pour ça, et il est devenu un professionnel, et il fait ce qu'il appelle, lui, du live. Donc ça pose toutes les questions par rapport au format que vous proposez, vous. On en écoute un extrait.
Là, nous sommes de retour sur Brut, à quelques pas de l'Elysée. Nous sommes ici, rue du Faubourg Saint-Honoré. Rémi Buzyn, journaliste pour Brut. Je couvre actuellement le mouvement des Gilets jaunes. Et ils sont de retour à quelques centaines de pas de l'Elysée. Ils sont quelques centaines ici à être vus.
Jean-Paul Lepers, c'était intéressant, justement, toutes ces formes de vidéos amateurs, parce que la plupart d'entre elles sont proposées en live, ouais. C'est-à-dire en direct. C'est la force du direct. Je suis là où je filme et vous voyez ce que je vois, moi.
Rémi Buzyn, il a commencé avec Nuit Debout. Hein.
Oui, c'était, absolument.
Il était la seule caméra, une des seules caméras. Donc, en fait, c'est un téléphone qui est en relation. Maintenant, il est sur Facebook. Avant, c'était sur Periscope. Des technologies nouvelles qui permettent de faire ça de manière absolument gratuite. Hein. Ça coûte rien. Avant, ça coûtait très cher, indirect. Effectivement, on se retrouve dans une situation où, en fait, le téléspectateur qui ne peut pas être à la manif peut être témoin, un peu comme un manifestant. Il peut voir ce qui se passe. C'est là, il y a le à la fois cette possibilité de vivre en direct, en temps long, et d'avoir donc ce sentiment d'être
immergé.
Oui, mais il y a ce sentiment d'objectivité. Hein, qui je vois tout. Donc si je vois tout, il n'y a pas de manipulation. Alors c'est vrai que le direct ne permet pas le montage, et c'est ça qui est intéressant. Et il y a un enjeu étonnant, formidable. D'ailleurs, la télévision, la radio fait de moins en moins de direct parce que c'est dangereux aussi le direct, parce que en gros
oui,
les télévisions,
c'est une prise de risque, absolument.
Les gens ont peur de ça. On peut en reparler tout à l'heure. Moi, j'aimerais bien faire ce genre de choses, mais l'idée d'objectivité, elle est fausse.
Parce que
Rémi Buzyn, il va regarder un côté. Il va pas regarder derrière lui. L'objectivité n'existe pas. Et c'est quelque chose, on nous reproche, nous, les journalistes, de dire, ouais, vous manipulez, vous donnez
Vous voulez
votre...
dire que quelle que soit la personne qui tient la caméra et quelle que soit la caméra, il y a toujours un champ et un
absolument.
Hors-champ, un cadre et ce qui n'est pas dans le cadre. Donc il y a toujours un choix qui
toujours.
Est fait.
Et Rémi Buzyn, qui est un journaliste, il va poser des questions à certaines personnes et pas à d'autres. Donc de toute manière, il y a un choix. Je trouve qu'il est très important que les gens qui nous écoutent et puis ceux qui nous écoutent pas, parce que sur France Inter, ils sont un peu plus attentifs que d'autres sur ces questions. Il est super important d'apprendre à savoir comment ça marche, le journalisme, comment on produit du reportage, comment on fait des choix.
Ben, justement, Paul Morera, pourquoi est-ce que montage est devenu synonyme de mensonge ou de risque de manipulation?
Parce que
beaucoup, hein, même nous, par exemple, l'Instant M, on a voulu, par exemple, inviter des Gilets jaunes et on nous a répondu, on ne vient que si c'est du direct, sinon il y aura du montage, la peur du montage.
C'est vrai que le montage est un choix, en fait. C'est vrai, c'est à un moment donné, il y a quelqu'un qui décide de sortir une quintessence, qui juge être une quintessence, donc c'est un choix éditorial, on peut le refuser. Moi, je crois que le souci avec les Gilets jaunes, c'est que... encore les Gilets jaunes, c'est rien que de dire les Gilets jaunes, ça m'est difficile parce que
je comprends.
Veut rien dire. Mais le souci avec certains Gilets jaunes qui ont une sorte de haine vis-à-vis des médias, c'est que pour eux, c'est une sorte de grand magma où ils mélangent les gens qui les invectivent, qui sont en fait des éditorialistes avec des points de vue idéologiques très tranchés, et le malheureux pigiste payé une misère aussi précaire qu'eux qui va faire des images en première ligne dans les manifestations. Donc il y a cette espèce de grand méli-mélo terrible qui fait que on est essentialisé de la même manière que eux. Vous voyez, il y a un état de guerre quand même, hein. Aujourd'hui, la société, elle est hystérisée sur la question des médias et des gilets jaunes. Donc ils reproduisent cette espèce d'état de guerre et ils nous soupçonnent nous, globalement, dans un grand sac, d'être des manipulateurs.
Mais c'est intéressant ce que vous dites, justement, dans cette confusion des formats, c'est-à-dire qu'est-ce qui est reportage, qu'est-ce qui est direct, qu'est-ce qui est des moments laissés aux éditorialistes, c'est-à-dire des gens sur un plateau qui parlent, qui débattent, avec des images en fond derrière eux. Notamment, il y a la question des duplex. Vous savez qu'il y a un malaise qui s'est emparé de la rédaction de BFM TV, une rédaction qui est très fatiguée, qui a énormément travaillé depuis 2 mois, mais qui s'est aussi fait menacer, insulter, parfois cogner physiquement, et qui a essuyé des critiques virulentes. Et parmi ce qu'on entend au sein de BFM TV, c'est on fait trop de duplex, pas assez de reportages. Je vous fais écouter ce que c'est qu'un duplex.
Et tout de suite, barricades incendiées, feux tricolores arrachés, pavés décellés. Scène de violence aujourd'hui sur les Champs-Élysées. On va retrouver Igor Saïri. Igor, il reste ce soir des points de tension, des casseurs qui jouent au chat et à la souris avec les forces de l'ordre.
Alors, au moment où l'on se parle, ce n'est plus vrai. Je vais vous montrer cela en image. La circulation a rouvert sur les Champs-Élysées. Le problème, c'est que tout n'a pas été déblayé par les services publics de nettoyage. Il y a encore une poche d'incendie à quelques dizaines de mètres de moi.
Le duplex, qu'est-ce que ça apporte? Quelles en sont les limites, Jean-Paul Lepers? Mais on peut dire que le duplex, c'est arrivé il y a une trentaine d'années, en fait, à partir de la chute du mur de Berlin. C'est-à-dire la première fois que, technologiquement, un présentateur de JT pouvait être dans son studio et donner la parole en direct à un correspondant, un envoyé spécial qui est sur le terrain.
Moi, j'ai fait du JT, j'étais à TF1 les années 80-90. Et j'étais dans des positions comme ça où le présentateur m'envoyait, alors bonjour, Jean-Paul Lepers. Oui, alors donc, il y a de la violence, ça se passe très très mal. Et là, non, c'est fini, il n'y a pas de violence, j'ai envie de parler d'autre chose. En gros, ça ne les intéresse pas. C'est-à-dire que là, on est réellement dans cette bête qui est le média, qui demande de la violence, parce qu'il en a besoin, parce que il pense que c'est ça l'information, et la seule information. Et puis, il ne réfléchit pas parce qu'il n'est pas sur le terrain, et il ne va pas écouter le reporter qui dit « Ah mais non !» On va pas parler de ça parce qu'il y a autre chose de plus important. Et c'est là où il y a une espèce de... On se fait avoir. C'est-à-dire que le reporter ne sait plus quoi dire. Le présentateur, lui, il réfléchit plus. Et le téléspectateur, on lui fait peur. Pourquoi? Parce qu'on veut mettre de la publicité et le garder captif pour pouvoir passer notre publicité.
Mais c'est intéressant parce que justement, les équipes de BFM disent on fait trop de duplex, donc on se retrouve en direct à montrer des poubelles qui brûlent au lieu de faire du reportage.
Donc, au lieu d'aller derrière, d'aller à l'arrière-ligne, pas forcément devant là où ça cogne, on peut faire de l'information en fin de manif en faisant 300 mètres, 400 mètres en direct.
Ce que vous dites, c'est-à-dire qu'on n'est pas obligé de faire du reportage, on n'est pas obligé de faire du froid, on peut faire du chaud, on peut être en direct, sauf qu'on n'est pas forcément devant la poubelle qui brûle.
Il se passe des choses passionnantes, même quand les poubelles ne brûle pas. Et même à côté, derrière les poubelles, il y a des gens qui disent « je suis pas d'accord ». Et ces gens-là n'ont pas la parole.
Et c'est vrai que moi, par exemple, je me suis beaucoup concentré quand j'étais en train de couvrir les gilets jaunes, sur essayer de saisir des choses qui rentraient pas dans le cadre, en fait.
Toujours la même question. Qu'est-ce qu'on met dans le cadre, hein?
Et alors, j'essayais à chaque fois de saisir, ce qui me passionne, c'est les dialogues, en fait. Et c'est un mouvement où, bizarrement, ces gilets jaunes qui ont vécu dans la violence le temps qu'on sait, ont essayé sans cesse d'établir le contact avec les forces de l'ordre verbal. Moi, j'ai jamais vu ça. J'en ai fait beaucoup des insurrections et des révolutions. J'ai jamais vu des gens qui soient autant dans la volonté d'établir un pont avec les gens qui sont là pour leur taper dessus. Ça me semblait fascinant. En dehors de la violence, en dehors de ce qu'il
y en a beaucoup, des séquences que vous avez mises en ligne justement là-dessus.
Donc, je me suis fait même un petit peu dégager à coups de matraque à mon nez par des policiers parce que je filmais.
Vous n'êtes pas le seul,
Oui, je suis pas le seul. Non. Je filmais un gilet jaune solitaire qui parlait de sa grand-mère qui était dans un EHPAD qui ne pouvait pas payer à des CRS, et il y a une sorte de tentative de dialogue qui s'engageait. Il n'y avait aucun danger. Le type était seul, ils étaient 15, je me suis fait dégager à coups de matraque. Comme si, au fond, ça, c'était quelque chose qui était difficile à admettre. C'est-à-dire que ça sort du cadre. On n'est plus dans la répression de la violence, on n'est plus dans le danger.
Alors, c'est aussi une question de forme, tous les deux. C'est-à-dire qu'on voit bien dans ce que vous dites, soit il y a l'interview, il y a le journaliste qui est en face de quelqu'un et lui tend son micro, soit il y a des images qui sont commentées en plateau ou en direct sur place. Mais finalement, entendre les gens dialoguer. Je vous dis ça parce que Le Monde consacre des nombreux articles qu'on peut voir cette semaine sur les médias poussés à l'autocritique. Et un confrère de France 3 dit, va peut-être falloir réfléchir à donner la parole aux gens autrement que dans un micro-trottoir. Jean-Paul Lepers, vous avez tenté quelque chose qui s'appelle le point rouge, que vous avez fait à plusieurs reprises. J'arrive quelque part, je jette un point rouge, je tends un micro, non pas à une personne pour l'interviewer, mais pour laisser les gens discuter entre
organiser
eux.
Le débat.
On vous écoute.
Attendez, je vais jeter mon point rouge. Au soleil, du 1er mai. On se pose des questions. C'est un débat citoyen. Chacun peut venir ici, s'il le souhaite, discuter. 7 mai prochain, est-ce que vous votez? Est-ce que vous votez pas? Est-ce que vous vous abstenez? Venez, venez, venez. Vous avez une certitude?
On va voter et faire barrage.
Vous faites barrage à quoi?
On va voter Macron.
Macron?
Oui.
D'accord. Ça, c'est clair pour vous. Et pour vous, monsieur?
Nul.
La question du multivoix. Voilà, de la discussion à plusieurs voix. C'est ça qui est difficile et qu'on voit très peu à la télévision, finalement. Ça rejoint ce que dit Paul Moreira dans ce qu'il cherche à filmer dans les manifs.
Et en fait, là, c'est l'organisation d'un débat citoyen.
Oui.
Et c'est proposer la possibilité de s'exprimer, mais surtout aussi de s'écouter. Et de pas arriver uniquement avec ses certitudes et dire avec l'écoute. L'écoute nous permet de bouger.
Mm-hmm.
Donc on doit demander aux gens leurs opinions, c'est très bien. Maintenant, une opinion, ça se construit. Et ça se construit dans le débat, dans le dialogue, dans l'écoute de l'autre. En France, on ne sait pas faire ça. C'est quelque chose qu'on...
Vous voulez dire à la télévision française?
Mais même, on n'est pas des bons démocrates. On n'est pas des bons... Et peut-être pas à la télé aussi, la radio. Ouais. Mais on n'est pas, nous, des bons... On veut avoir raison. Et on a raison alors que, quelquefois, on n'a aucune raison, on n'a pas suffisamment d'éléments pour affirmer quelque chose. On ne s'écoute pas assez. Je trouve que ça, c'est quelque chose qui est, qu'on devrait vraiment apprendre. C'est ça qu'on essaye de faire avec la télé libre. Le point rouge, je le propose actuellement à des télévisions, à des radios. Et s'ils ne le veulent pas, parce qu'ils ne l'ont jamais voulu, on va le faire tout seul sur Internet.
Alors, ce qui est, ce que je tire de tout ce que vous dites, c'est que finalement, une scène de manifestation, c'est le lieu de beaucoup de choses. Donc, c'est un lieu assez complexe. Paul Moreira, vous avez eu l'occasion de filmer des mouvements de foule plus ou moins violents, plus ou moins insurrectionnels dans différents pays à différentes époques. Qu'est-ce qu'on se dit quand on est journaliste, qu'on arrive avec sa caméra ou avec son cadreur face à ce type de mouvement? C'est très différent que de filmer une scène isolée ailleurs et des gens isolés.
Il y a une dynamique particulière des foules, il faut faire attention à ça. D'abord, je voudrais dire un truc qui va peut-être sembler bizarre, mais c'est pas très violent ce qui se passe tous les samedis en France depuis 2 mois. Enfin,
pas bizarre, c'est le contraire de ce que disent les patrons de chaînes d'info qui disent jusqu'à présent il nous fallait des agents de sécurité pour envoyer des journalistes au front et maintenant il le faut pour les envoyer à Rouen.
Moi, je sais pas. Par exemple, j'ai couvert le printemps arabe en Égypte.
C'était autre chose.
Il y avait les pierres volaient, mais des gros cailloux tranchants. Vous les prenez sur le crâne, vous vous retrouviez à l'hôpital. Chaque confrontation, il y avait une quinzaine de morts. C'était extrêmement violent. C'était du même genre, une manifestation. On peut comparer le Maïdan en Ukraine où il y a eu en tout 150 morts sur la place. Donc, c'est les gilets jaunes envoient. Pas, sauf des moments très précis, des tonnes de projectiles, mais il y a une dynamique des foules. Un des trucs auquel il faut vraiment faire attention quand on filme dans une foule, c'est à ne pas, à ne pas fuir quand il y a confrontation. Chaque confrontation, il faut essayer d'établir la parole en permanence. C'est parce que la foule est un inconscient d'animal. C'est-à-dire que si vous fuyez, elle vous pourchasse. Donc il faut essayer, jusqu'au dernier moment, de maintenir un dialogue assez ferme, et c'est la plus grande garantie de sécurité. Moi, j'ai fait donc tous les samedis, j'ai pas pris du tout de sécurité, j'ai pas été embêté. Mmh. Enfin, Paris est un cas de figure différent, parce qu'apparemment, le gros des agressions se passe en province. C'est vrai qu'il y a des gens qui détestent les journalistes dans ces milliers de personnes. Il y a des gens qui ont une sorte de haine très étrange. Il faudrait d'ailleurs enquêter là-dessus, et c'est un champ qu'il faut vraiment investir. Et puis, l'autre truc, le truc terrible, c'est les flashballs. Franchement, moi, j'ai jamais vu ça. C'est-à-dire que.
Ça fait peur.
Parce qu'en fait, on se tient près des murs.
Les flashballs, donc, je le précise, c'est des armes des forces de l'ordre.
Ouais, on peut perdre son œil, quoi. Donc, moi, c'est le truc qui me stresse. À chaque fois que je
tourne. Perdus.
À chaque fois que j'entends un POC, je me dis est-ce que c'est pour moi ou un autre, je me mets contre les murs. En fait, on gère ça un peu comme un pays en conflit, quoi, exactement avec les mêmes règles, pas se retrouver au centre.
Jean-Paul Lepers.
Non, je veux dire, parce que je vois que l'émission est terminée, moi, quand on nous attaque, nous les journalistes, je nous défends, parce que c'est important, nous, on a besoin de se protéger. En même temps, il faut qu'on accepte l'autocritique, et ça, on l'a jamais organisé. C'est quelque chose que moi, j'ai toujours essayé de faire dans les rédactions où j'ai travaillé. C'est quelque chose de très difficile. En gros, dire, on a tourné quelque chose, on a fait une erreur, on a dit des bêtises. Eh ben, il faut le dire. C'est-à-dire normalement, on devrait le faire, des rectificatifs. Dans la presse écrite, ça se fait. en télé, en radio, très peu. On n'a pas cette culture-là. On n'a pas cette culture de l'auto, de l'auto-réflexion et de l'autocritique. C'est quelque chose qui me semble très important. Et je vous invite à en faire une émission, Sonia.
Allons-y, allons-y. Merci beaucoup, Paul Morera. Les images de Première Ligne TV sur la chaîne YouTube, donc ouverte à tous. Et la web TV, la télé libre. On vous glisse un lien sur la page Vincent M. Merci beaucoup, Paul Morera, Jean-Paul Lepers. Bonjour, Ali Rebéi.
Bonjour, Sonia de Villers.
Alors, au menu.
Au menu, on va essayer de comprendre le succès du vintage. Ce goût pour les objets, les vêtements, le mobilier rétro des années 50 à 80. N'hésitez pas à nous appeler au 01 45 24.
Vous savez qu'il n'y a pas mieux que la télé pour se recycler elle-même. Hein. Ça, la télé adore le vintage.